Je vous invite à trouver le livre de Genèse dans vos Bibles. C'est pas compliqué, c'est le premier livre. Et en plus, nous sommes dans le livre de Genèse depuis maintenant un certain temps. Nous allons arriver à la fin du livre. Avant Pâques, mais pour l'instant, nous suivons toujours l'histoire des patriarches, surtout l'histoire de Joseph en ce moment, arrière-petit-fils d'Abraham et l'onzième fils de Jacob, celui qui s'appelle maintenant Israël. Je dis l'histoire de Joseph, mais en réalité, ces derniers chapitres du livre de Genèse sont l'histoire de Joseph et de ses frères, les 12 qui seront les ancêtres des 12 tribus d'Israël. C'est le début du peuple d'Israël, en fait, cette partie du livre de Genèse. Et ce début n'a pas été très glorieux. Au chapitre 35, nous avons vu que le frère aîné des 12, Ruben, a couché avec la femme de son père. Puis au 37, ce que nous avons regardé avec Didier dimanche dernier, le père des 12, Jacob, il continue le péché qui avait marqué sa propre famille d'origine, le favoritisme. Le jeune Joseph semble être un peu orgueilleux. Et à la fin du chapitre, ses frères, dirigés par le frère Judas, vendent Joseph comme esclave. Joseph est amené en Égypte et les frères mentent à leur père Jacob en lui disant que Joseph a été tué par une bête sauvage. Ce n'est pas très rassurant pour la famille qui devrait devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du chapitre 37 au chapitre 38 et 39. Et nous allons surtout lire le chapitre 39, ce chapitre qui raconte l'histoire de Joseph chez l'Égyptien Potiphar. C'est la suite directe du dernier verset du chapitre 37-36. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du pharaon qui était chef des gardes. Mais avant d'arriver au chapitre 39, il y a tout un autre chapitre, 38. Et ce chapitre suit l'histoire non pas de Joseph, mais de son frère Judas, celui qui était au centre de la violence faite contre son frère Joseph. Après avoir vendu Joseph, nous lisons au chapitre 38, verset 1, que Judas s'éloigna de ses frères pour vivre chez un homme d'Adullam appelé Ira. Et le reste de l'histoire que nous avons au chapitre 38, c'est l'histoire d'un homme qui continue d'agir comme il a agi au chapitre précédent. Vous pouvez lire à la maison, mais voici le résumé du chapitre 38. D'abord, Judas agit injustement envers sa belle-fille Tamar, puis il couche avec une prostituée, et finalement il découvre que c'était en fait Tamar, sa propre belle-fille, avec qui il a couché. Et elle démasque le crime de Judas devant tout le monde lorsqu'elle tombe enceinte. Du coup, lorsqu'on revient à Joseph au chapitre 39, après avoir lu toute cette histoire sordide au sujet de son frère Judas, on est frappé par le contraste entre les deux frères. Chapitre 38 et 39 se présentent en fait comme deux histoires parallèles. Ils sont là, dans la parole, pour nous donner cette image des deux frères. Les deux frères qui se trouvent éloignés de la maison de leur père. L'un volontairement, l'autre involontairement. Et là, éloignés de la maison de leur père, chacun se trouve face à la tentation. L'un va tomber dans une vie d'injustice et de péché, alors que l'autre manifeste une intégrité impressionnante. Les parallèles et le contraste entre ces deux frères sont très intéressants et très instructifs. Nous allons lire l'histoire de ce deuxième Joseph chez Potiphar maintenant. Mais il faut garder l'histoire du premier, Judas, à l'esprit, parce que nous allons nous poser deux questions. Comment être comme Joseph et non pas comme Judas? Et puis, pourquoi? Alors, en principe, ces questions sont sur les diapos. Mais, apparemment, il y a un problème. On verra si on peut avancer. Mais les questions pour nous sont au sujet de l'intégrité de Joseph. Qu'est-ce que c'est? Comment l'avoir? Et quels sont les enjeux? C'est-à-dire, pourquoi avoir l'intégrité dans notre vie? Parce que c'est ça qu'on voit dans la vie de Joseph dans ce passage, à la différence de Judas. L'intégrité. C'est-à-dire, faire le bien même lorsque personne ne me regarde. N'est-ce pas? C'est ça l'intégrité. Lisons chapitre 39 de Genèse. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, il l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit, « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. » Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. » Comme je suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. Celui qui avait été responsable d'une grande maison, une maison de luxe, libre de se faire ce qu'il voulait, maintenant en prison. Et il va rester là pendant des années. C'est une histoire bien connue, je pense, au moins à cause du film Le Prince d'Égypte qui est sorti, bon, peut-être il y a longtemps maintenant, mais... Cette histoire est assez bien connue, et la suite aussi. Le fait que c'est cet emprisonnement qui va permettre que Joseph rencontre le pharaon et qu'il redevienne responsable, mais cette fois-ci responsable de toute l'Égypte. Mais comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le comportement de Joseph chez Potiphar, en contraste avec son frère Judas. Sur le plan pratique, nous savons que cette épreuve va servir à élever Joseph en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel pour Joseph? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? J'ai dit que l'intégrité, c'est de faire le bien même lorsque personne ne nous regarde. Et c'est ce que Joseph fait. Pensons un peu à sa situation. Le texte biblique le souligne à plusieurs reprises que Joseph, il est là, il est seul, personne ne le voit. Voici un jeune homme de la campagne, loin de son pays, dans la grande ville. Personne ne le connaît. Personne ne connaît ses convictions. Personne ne connaît son Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Et il n'y a personne pour lui dire qu'il est hypocrite. Parce que personne ne le connaît. Si vous avez déjà voyagé seul, vous connaissez peut-être un peu le sentiment que Joseph aurait pu avoir. Une liberté exilérante, mais un peu de danger aussi. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai pris ma voiture seule pour aller de Pennsylvanie chez mes parents à l'Institut biblique à Chicago. Là, ça fait 12 heures de route, tout seul. J'avais 20 ans. Ma première année à l'Institut, mes parents m'avaient emmené, mais en deuxième année, je suis allé seul. 2 heures de route, seul dans ma vieille Toyota. Jamais cette voiture. Et je me souviens bien du sentiment que j'ai eu lorsque c'était juste moi et ma voiture. Lorsque je me suis arrêté au bord de l'autoroute pour manger mon sandwich dans les montagnes de Pennsylvanie. Il faisait beau, j'étais indépendant, j'étais jeune, j'étais libre. Je pouvais manger où je voulais, quand je voulais. Je pouvais mettre ma musique très forte. Je pouvais même chanter parce qu'il n'y avait personne pour m'entendre. Et c'était bien. C'était une bonne expérience en fait. Mais je me souviens aussi, en descendant de l'autre côté de la montagne, dans un petit village, je me suis arrêté à une station-service pour faire le plein. Et là aussi, j'étais libre. Je pouvais acheter ce que je voulais. N'importe quel magazine, par exemple. Là, c'était l'époque avant l'Internet. Et il y en avait plein que je n'aurais jamais acheté si j'étais toujours dans le département où j'ai grandi, au cas où quelqu'un me verrait. Mais là, il n'y avait personne. Je pouvais faire ce que je voulais. Et je me suis tenu devant le rayon, devant les magasins, dans le rayon devant les magasins, et j'ai réfléchi. Heureusement, je n'ai pas cédé à la tentation. Et ce n'est peut-être pas grand-chose comparé à la tentation de Joseph dans ce passage. Mais ces choses ont tendance à s'enchaîner. Et de toute façon, c'était une question pour moi de rester intègre ou pas. Là, jeune, sur la route vers l'Institut biblique. Est-ce que j'allais agir selon mes convictions qui étaient elles-mêmes basées sur la parole de Dieu? Comme moi ce jour-là, et comme Judas et chacun d'entre nous, tôt ou tard dans la vie, en Égypte, Joseph se trouve dans une situation où il peut faire ce qu'il veut. Et personne va lui dire que ce qu'il fait ne s'aligne pas avec ce qu'il croit ou ce qu'il prétend croire. Et là, nous expérimentons ça tous à une petite échelle tous les jours. Nous avons beaucoup d'opportunités chaque jour de vivre d'une manière qui s'aligne ou pas avec ce que nous croyons et ce que nous disons croire. Ça, c'est une autre façon de définir l'intégrité. Que nos croyances et notre parole et notre comportement s'alignent. Et pour un chrétien, ça veut dire que tout s'aligne finalement avec la parole de Dieu. Que tout s'aligne. Chaque jour, nous avons plein d'opportunités d'introduire ou pas un petit décalage entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Et quand nous faisons ça, quand nous introduisons ce décalage dans notre vie, lorsque ce que nous disons et ce que nous faisons ne s'alignent plus, notre âme commence à être malade et à s'affaiblir. Et se déchire en fait, parce que l'ensemble ne s'aligne plus. Et ça, c'est en fait la première réponse à la question pourquoi. Les enjeux. Un manque d'intégrité mine ma force spirituelle. Je n'aurai jamais la force pour être la personne que Dieu m'a créée pour être si les différents domaines de ma vie ne s'alignent pas les uns avec les autres. Ma vie publique avec ma vie privée, mon comportement avec mes croyances, mes pensées avec mes convictions. Là, je parle d'expérience. J'ai réussi ce jour-là en Pennsylvanie, mais ma vie n'a pas été parfaite. Je connais d'expérience ce que c'est quand les choses en moi ne s'alignent pas les uns avec les autres. Ces choses doivent s'aligner ou je n'aurai aucune force spirituelle. Les ingénieurs parlent de l'intégrité d'une structure pour évaluer si la structure est solide et stable ou pas. Une structure solide, ce bâtiment par exemple, j'ai entendu qu'il y a une tempête qui arrive aujourd'hui, on va voir si ce bâtiment est vraiment solide. Mais ce bâtiment aura l'intégrité tant que ces différentes parties sont bien alignées les unes avec les autres. Ces poutres-là, par exemple, elles doivent être alignées et elles doivent avoir la même longueur. Si juste celui-là ou celui-là ne s'aligne plus, si l'une est plus courte que l'autre, le bâtiment devient instable. C'est la même image que nous avons lorsque nous parlons d'un homme droit, d'une personne droite. Ce qu'il croit et ce qu'il dit et ce qu'il fait s'aligne. Lorsque ce que nous faisons ne correspond pas à ce que nous disons ou ce que nous croyons, nous sommes comme un bâtiment dont les poutres et les murs ne s'alignent plus. Ça ne soit pas toujours tout de suite de l'extérieur. Mais petit à petit, on trouve que le toit n'est plus étanche. Et puis, il y a une porte qui ne se ferme plus parce que le mur n'est plus droit. Si vous avez une maison et les portes ne se ferment plus, ça peut être le signe d'un grand problème derrière. Et tôt ou tard, on trouve que toute la structure est instable. Et c'est là où le chapitre 38 entre dans la discussion. Parce que là, on a l'image d'un homme qui n'est pas intègre, qui n'a pas l'intégrité. Pas avant la fin du chapitre, en tout cas. Judas est seul et il en profite pour faire ce qu'il veut. Et ça s'enchaîne par des tromperies et des secrets et des péchés qui se terminent par une humiliation publique pour Judas. Mais ce n'est même pas le pire. Ce n'est pas l'humiliation publique. C'est le fait que son être intérieur est en train de se déchirer. Joseph, par contre, en Égypte, arrive à gagner la confiance de Potiphar par sa sagesse et son intégrité, jusqu'au point où il a un pouvoir et une liberté presque totale dans la maison de Potiphar. Une liberté qui lui aurait permis justement de coucher avec la femme de Potiphar, sans que personne ne sache. Va-t-il maintenant utiliser ce pouvoir pour faire ce qu'il est juste ou pour cacher son injustice? C'est l'épreuve devant lui. Si Joseph profite de sa position pour coucher avec la femme de Potiphar, il va probablement garder son pouvoir, mais il perdra son intégrité, sa droiture. Au sein de lui, il y aura une poutre qui ne s'aligne plus avec les autres, et cela aura pour effet de commencer à déchirer son âme. Comme ce bâtiment se déchirait si cette grande IPN-là commence à bouger. Si ça arrive, il faut fuir. J'ai lu récemment un livre écrit par un psychologue chrétien qui explique en fait comment cela se manifeste même au niveau de notre cerveau. comment les différentes parties de notre cerveau se communiquent moins entre elles lorsque nous faisons quelque chose dont nous avons honte, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée est simple. Sans l'intégrité, notre âme, notre esprit et notre corps commencent à se désintégrer. En revanche, lorsque nous vivons avec l'intégrité, lorsque nous faisons le travail, et c'est du travail, pour que notre comportement s'aligne avec ce que nous disons et ce que nous croyons, même ou surtout lorsque personne ne nous voit, nous trouvons en nous une force et une paix que nous n'avons pas expérimenté avant, dans chaque aspect de notre vie. C'est pour ça que Proverbe 11, 3 nous dit « L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. » Je ne sais pas si on peut avoir le diapo avec cette référence. Je pense qu'il est là quelque part. Mais c'est Proverbe 11, 3. L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. Alors, soyons clairs, le fait de garder son intégrité va avoir de très mauvaises conséquences pour Joseph sur le plan matériel, n'est-ce pas? Il va être jeté en prison. C'est pas ça la question. Il va être jeté en prison et il va y rester pendant longtemps. Mais sur le plan spirituel, son âme reste intacte. Et en plus, elle devient encore plus forte. Alors, est-ce que vous vous sentez intact aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que les différentes parties de votre vie extérieure et de votre vie intérieure s'alignent? Que l'ensemble s'aligne avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place en vous? Quelque chose qui n'est pas cohérent avec le reste? Peut-être que vous êtes gentil à l'église, mais très sévère à la maison, parce qu'il n'y a personne pour le voir, sauf la famille. C'est marrant. Comment nous pouvons commencer à nous comporter comme si notre famille n'était pas des personnes, en faisant des choses à la maison qu'on ne ferait jamais devant un frère ou une sœur de l'église. C'est pas marrant en fait, c'est tragique. Ou peut-être que vous êtes très spirituel avec votre époux parce que vous ne voulez pas qu'il pense mal de vous, mais au travail vous faites autant de commérages que les autres, ou vous mentez sur votre rapport afin de ne pas être pénalisé, parce que tout le monde le fait, alors les parties de votre vie ne s'alignent plus. Ou vous avez promis à votre époux ou votre épouse qu'elle est la seule personne pour vous, mais vous regardez ailleurs quand même, un petit peu. Ou vous imaginez ce que ce serait d'être avec tel ou tel autre. Et là, je ne parle pas juste de la sexualité, mais juste, on aime bien imaginer. Et là encore, il y a quelque chose qui ne s'aligne plus. Et l'édifice de votre âme devient instable. Même si nous ne passons jamais à l'acte, entre guillemets, parce que notre pensée est aussi un acte. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, cela aura des conséquences dans notre vie. Alors, que faire? Que faire? Comment avoir l'intégrité? Chacun d'entre nous peut identifier, je pense, au moins une petite partie de notre vie où notre comportement ne s'aligne pas parfaitement avec ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous l'identifions? Alors, dans une phrase, arrêtons de faire semblant. C'est-à-dire changer notre comportement et être honnête lorsque nous échouons. L'intégrité n'est pas la perfection. C'est être honnête. Honnête avec les autres et avec nous-mêmes. Et c'est un peu ironique, je trouve, mais ce n'est pas Joseph qui nous montre ça dans cette histoire. C'est Judas. D'où l'importance de son histoire dans notre Bible, du chapitre 38, parce que c'est Judas qui va nous montrer en fait quoi faire lorsqu'on n'a pas d'intégrité. Joseph est intègre et il reste intègre parce qu'il refuse d'être une personne avec Potiphar et une autre personne avec sa femme. Judas, par contre, il n'est pas intègre au début du chapitre. Mais il devient intègre parce qu'à la fin de son chapitre, il confesse ce qu'il a fait devant les autres et même plus important, il en accepte la responsabilité. Chapitre 38, verset 26. Elle, cette prostituée, elle, c'est Judas qui parle, elle est moins coupable que moi. La prostituée était coupable, mais lui, il accepte la réalité que lui, il est plus capable qu'elle, plus qu'elle. Ce que Judas fait en public commence donc à s'aligner avec ce qu'il fait en secret. Et il fait l'effort pour aligner les deux avec ce qu'il croit, c'est-à-dire avec la justice de Dieu. Alors, Judas a encore du progrès à faire. Et c'est ce que nous allons voir en fait dans les prochains chapitres, sa prochaine épreuve au chapitre 45. Judas sera au centre de l'épreuve de Joseph, que Joseph fait pour ses frères. Et Judas va devoir montrer ce qu'il a appris, ou pas. Mais maintenant, au moins, il est sur le chemin de l'intégrité à la fin du chapitre 38. Alors, si tu ressens en toi un manque d'intégrité ce matin, si Dieu est en train de mettre le doigt sur une partie de ta vie qui ne s'aligne pas avec les autres, un endroit où tu fais semblant, il y a deux choses à faire. Arrêtez de mentir à Dieu, aux autres, à toi-même. Arrêtez de mentir et s'engager à ne plus être une personne en public et une autre personne en privé. Une personne lorsque ton époux est là et une personne lorsqu'elle n'est pas. Une personne à l'église et une personne au travail. C'est le premier pas. Arrêtons de faire semblant. Et puis, nous devons aussi savoir garder notre intégrité, protéger notre intégrité. Il faudra fuir certaines situations, comme Joseph a fui la femme de Potiphar. C'est une image très parlante, là, le jeune homme en train de fuir avec son habit, encore dans la maison. Pendant un certain temps, Joseph a pu résister à ses tentatives, aux tentatives de la femme. Verset 10, elle parlait tous les jours à Joseph, mais il n'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Mais ça a duré un certain temps. Mais un jour, c'est devenu trop. Et Joseph a pu reconnaître son danger. Il faut se connaître. Quelles sont les situations qui sont dangereuses pour moi? Quelles sont les situations où je suis en danger de perdre mon intégrité? Et dès qu'on s'y trouve, il faut fuir. Moi, je me souviens très bien d'un prof que j'avais à l'Institut biblique qui nous a raconté l'histoire d'une fois lorsqu'il travaillait dans une entreprise avant de devenir prof. Il travaillait dans une entreprise et une jeune femme avait essayé de l'embrasser. Mais lui, il était marié. Et il a refusé. Tout de suite, en rentrant à la maison, il a tout dit à sa femme. Et sa femme lui avait posé la question, « Alors, tu la trouves attirante, cette jeune fille ?» Et cet homme a répondu honnêtement, « Oui. » Et puis, ils ont décidé ensemble que faire pour protéger cet homme de la tentation, de ce danger. En fait, je ne me souviens plus de la solution qu'ils ont trouvée, parce que j'étais tellement époustouflé par cette idée qu'un homme puisse dire à sa femme ce qui s'est passé comme ça et admettre que oui, c'était un danger pour lui. Comment faire ça? Et comment sa femme pourrait-elle arriver à l'aider à surmonter le danger? J'étais complètement époustouflé. Mais 20 ans plus tard, je commence à comprendre. parce que j'ai pu comprendre que cet homme et son épouse avaient cultivé une intégrité tellement solide que l'un a pu avoir une vraie confiance en l'autre. Et ils voulaient que rien n'entre dans leur vie pour miner la stabilité que cela avait créée dans leur âme et aussi dans leur couple. Et là, c'est intéressant. L'intégrité, la stabilité créée par l'intégrité dans leur âme s'était répandue dans leur couple. Et ça vaut aussi pour d'autres types de relations. L'intégrité et la stabilité que nous créons en nous, c'est pas juste pour nous. Et du coup, pour lui, pour cet homme, lui, il a pu fuir la situation pour demander l'aide de son coéquipier, sa femme. Parfois, il faut fuir. Et il faut aussi avoir des gens vers qui on peut fuir pour demander de l'aide. Mais fuir n'est pas toujours simple. Pour ça, il faut se préparer. C'est le dernier point pour comment avoir l'intégrité. Il faut se préparer. Il faut poursuivre l'intégrité dans les petites choses d'abord, afin d'avoir la force pour la garder lorsque la grande épreuve arrive. Ce couple dont j'ai parlé là, il a dû cultiver l'intégrité dans les petites choses bien avant que cette tentation n'arrive. Ou prenons encore l'exemple de Joseph. La femme de Potiphar poursuit Joseph chaque jour. Et chaque jour, il refuse. Mais alors, si, dans sa tête, il se permettait d'imaginer ce qu'aurait pu se passer. Non pas pour le faire, mais juste pour le plaisir. En se disant, ça ne fait pas de mal, c'est juste dans ma tête. Et après tout, je suis seul, j'ai beaucoup souffert. Et ainsi de suite, vous connaissez le discours. Déjà, il y a une petite chose en lui qui ne s'aligne plus. Et le moment où il est seul avec la femme de Potiphar, et elle commence à insister, est-ce qu'il va avoir les réflexes et la force pour fuir? Probablement pas. L'intégrité se prépare, et elle se prépare par l'intégrité. C'est-à-dire, nous n'arriverons jamais à garder notre intégrité dans les grandes choses si nous ne la gardons pas dans les petites choses. C'est comme Luc 10, 16 le dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Et ça nous ramène à cette question des enjeux. Un dernier enjeu. Car dans ce chapitre, Joseph, il a une grande responsabilité chez Potiphar. Et il a une grande opportunité, soit de garder son intégrité, soit de la détruire. Et son choix va déterminer ce que Dieu fait ensuite dans sa vie. Comme nous l'avons déjà dit, dans les chapitres à venir, Joseph va devenir essentiellement le premier ministre de l'Égypte, la main droite du pharaon. Et c'est Dieu qui va faire tout ça. C'est Dieu qui a donné à Joseph cette première responsabilité chez Potiphar. Verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Et c'est Dieu qui lui donnera une responsabilité encore plus grande auprès du pharaon. Et Dieu va faire tout ça pour une raison précise. Il va élever Joseph à ce rôle en Égypte afin que Joseph soit une bénédiction pour l'Égypte et pour toutes les nations autour, y compris sa famille. C'est tout le thème du reste du livre. Joseph va sauver ses peuples pendant la famine, et c'est ainsi que Dieu va commencer à accomplir cette partie de la promesse à Abraham. Ta descendance sera une bénédiction aux nations. Jusqu'à là, ce n'est pas le cas. Même lorsque cette famille n'était pas en train de se déchirer par leur dysfonctionnement, les familles d'Abraham et d'Isaac et de Jacob n'ont pas encore commencé à être une bénédiction aux nations. Mais ici, enfin, à la fin de ce livre, ça va arriver. Alors, bien sûr, cette promesse prophétique que Dieu a faite à Abraham, que son peuple soit une bénédiction aux nations, elle s'accomplira pleinement en Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que son peuple n'était pas censé commencer à être une bénédiction déjà. Au contraire, le peuple de Dieu existe toujours pour être une bénédiction au monde, pour porter le fruit de la justice dans le monde, que ce soit le peuple d'Israël ou l'Église. Et c'est ce que Joseph va pouvoir faire en Égypte. Mais ça ne commence pas lorsqu'il arrive chez Pharaon. Ça commence chez Potiphar. Si Joseph est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle et intègre dans les grandes. S'il échoue, s'il couche avec la femme de Potiphar, il ne sera pas rejeté par Dieu. Soyons clairs, il ne perdra pas son salut. Comme Abraham, comme nous tous, Joseph a été sauvé par sa foi, non pas par ses œuvres. Ce n'est pas ça la question. Mais ça ne veut pas dire que les enjeux ne sont pas importants. Comme son frère Judas, si Joseph échoue à cette épreuve, il aura fait d'énormes dégâts autour de lui. Et même pire, il aura commencé à s'éloigner de Dieu en faisant en sorte que les parties de sa vie ne s'alignent plus les unes avec les autres. Il sera montré pas prêt pour la prochaine étape de sa mission. Et c'est ça le dernier enjeu. L'intégrité nous permet d'avancer à la prochaine étape de notre mission. Si Joseph avait échoué chez Potiphar, ça voudrait dire qu'il n'était pas prêt. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait jamais été prêt. L'apôtre Pierre, vous connaissez son histoire, il a pu accomplir la mission que Jésus lui a confiée, même après avoir renié Jésus 3 fois. Mais il faudrait qu'il apprenne à être un homme d'intégrité d'abord, qu'il apprenne à être fidèle dans les petites choses afin de faire de grandes choses. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Pour toi, là où tu es, ce serait peut-être pas, bon, presque sûrement pas aussi visible et impressionnant que celle de Joseph. Désolé. Moi, je ne voudrais pas quand même cette mission. Mais il a une mission pour vous. Il a une mission pour toi, pour nous. Il veut bénir le monde à travers nous. Il veut bénir nos familles, il veut bénir notre ville, il veut bénir nos voisins. Et l'histoire de Joseph nous rappelle que les obstacles ne l'empêcheront pas. Une famille violente et méchante comme celle de Joseph n'empêchera pas la mission de Dieu. L'esclavage et l'emprisonnement ne l'empêcheront pas. Un travail difficile ou une perte impensable dans notre vie n'empêchera pas la mission que Dieu a pour nous. Ce qui l'empêchera sera notre manque d'intégrité devant lui. Ce qui nous empêchera d'avoir la joie de voir notre Seigneur bénir le monde à travers nous, ce sera notre refus de laisser venir dans notre vie et aligner les choses qui ne s'alignent pas. C'est l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui. Laisse-moi entrer et mettre en ordre les choses en toi qui ne sont pas alignées les uns avec les autres. Ça peut faire mal. Par contre, si nous avons le courage de lui donner la permission de mettre toute notre vie en ordre, il fera de grandes choses en nous et à travers nous. C'est sa promesse. Mais il faut laisser faire. Il faut laisser entrer et remettre les poutres, remettre les murs, que nous soyons un peuple intègre. Par sa grâce, nous pouvons le faire. Invitons-le maintenant à sonder nos cœurs. Levons-nous pour chanter. Nous allons inviter ce Dieu à entrer en nous, à trouver ce qui ne s'aligne pas, qu'il le remette en ordre pour notre bien, que nous ne soyons plus un peuple déchiré à notre fort intérieur, mais que nous soyons intègres.